Isabelle Bresse,
Sud Radio,
c'est vous,
c'est vous.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième heure. On continue à parler de vos enfants. Et oui, on est mercredi. Alors mercredi, on parle des enfants. Nous allons parler de ces enfants qui mènent des vies pas comme les autres. Ils grandissent au milieu des animaux, sont des enfants du spectacle. Ils font le tour du monde avec leurs parents. Ils vont à l'école différemment. Bref, qui sont ces enfants qui mènent des vies qui peuvent faire rêver? Comment grandissent-ils? Quel est leur regard sur les enfants qui vivent, entre guillemets, normalement? Pendant toute cette heure, vous allez entendre des jolies histoires et des points de vue différents sur la vie. Et si votre enfant aussi vit différemment, qu'il a une passion par exemple, ou que vous avez un mode de vie pas comme les autres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en direct au 0 826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Isabelle Bresse,
Sud Radio, c'est vous.
Et nous sommes de retour, je le disais, comme tous les mercredis, on parle de vos enfants. Et aujourd'hui, ces enfants qui ont une vie pas banale, Sylvia. Vous connaissez un peu ça parce que votre père était comédien, il était scénariste.
Voilà, il était scénariste, dialoguiste, il a fait des pièces de théâtre. Et c'est vrai que quand j'étais petite, il m'emmenait dans les coulisses. Il me faisait croire qu'il allait pouvoir transporter un énorme buste en bronze qui en fait était en polystyrène. J'ai vraiment ces souvenirs-là. Et c'est vrai que ça donne une ouverture, ça donne quelque chose d'assez magique. Et j'ai un souvenir extraordinaire, c'est quand on était petite, il éteignait dans le salon, il mettait le décor de la pièce petit, hein, tout petit, sur le tapis, et avec une lampe de poche, il nous racontait la pièce de théâtre.
Oh, génial.
Et c'est vrai que ça donne à l'enfance, même à l'adolescence, où on a ça donne un autre éclairage, et ça donne une ouverture aussi aux autres, je pense.
Oui, c'est ça. Et on voit la vie un peu différemment. Oui. Et aujourd'hui, vous avez donc un pet au casque. On comprend
c'est
mieux
ça.
D'où ça vient.
Oui, donc ce n'est pas de ma faute.
Ce n'est pas de votre faute. Merci papa, merci maman. Hein. Je plaisante bien sûr. Elle sait que je la taquine à hauteur.
Et j'aime ça.
À hauteur de ce que je l'aime, Sylvia Kahn.
Merci, je suis touchée.
On est avec la famille Pelletier, avec Rachel Pelletier. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Rachel.
Bonjour.
Il est quelle heure par chez vous? Vous nous appelez de l'autre bout du monde, en Chine.
Waouh.
Oui. Alors c'est nous, ça en Chine, là, il est 22h passé, 22h10, hein, à peu près.
Mon fils me demandait si on marchait sur la tête en Chine. Vous pouvez lui répondre? comme c'est de l'autre côté de la Terre.
C'est comme en Australie.
Comme en Australie.
Vous dit ça quand vous êtes petit.
C'est ça.
On est à l'envers.
Donc vous ne marchez pas sur la tête, on est bien d'accord. Vous avez une famille.
Oui, d'accord.
Vous avez une famille et vous avez choisi de voyager avec votre famille. Vous avez un petit dernier qui a 2 ans, qui s'appelle Timothée. Vous avez un moyen qui a 7 ans, qui s'appelle Valentin. Et un grand qui a 10 ans, qui s'appelle Titouan. On les embrasse bien fort,
voilà,
s'ils nous entendent, bien sûr. Et alors, quel est votre projet à toute cette petite famille? Et puis Dimitri, le papa, bien sûr.
Alors en fait, c'est un projet donc d'une année, d'un voyage autour du monde. Donc il se décompose en 3 parties, 7 mois en Asie. On a fait déjà l'Indonésie pendant 1 mois. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en Chine. Il nous reste encore 15 jours à faire en Chine. Et ensuite, on continue sur la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge. Après, on va au Sri Lanka.
Ouais.
Et puis ensuite, on prend un vol long courrier jusqu'en Nouvelle-Zélande. Où on passera 5 semaines. Ensuite, on ira à Tahiti, puis quelques jours sur l'île de Pâques. Et les 4 derniers mois seront consacrés à l'Amérique du Sud, donc de la Patagonie jusqu'en Équateur. On terminera par les Galapagos.
Oh là, voilà, rien que de vous entendre, rien que de vous entendre, ça fait rêver. Vous nous faites voyager rien qu'en nous racontant l'histoire. Mais comment vous avez décidé de partir avec vos 3 enfants, je rappelle le plus jeune à 2 ans, comme ça faire le tour du monde pendant 1 an?
Alors en fait, on a toujours été voyageurs, hein, avec mon mari, hein. Bien avant d'avoir les enfants, on a déjà voyagé à travers le monde. Et c'était déjà une idée à cette époque de faire un voyage au long cours, et qui ne s'est jamais réalisé parce que les évolutions professionnelles ont fait que on n'est pas parti. Et puis après est arrivé Titouan, puis Valentin, ça s'est jamais fait. Et puis on a recommencé à voyager, mais uniquement sur des petites périodes d'un mois à peu près. Et c'est il y a 3 ans en Indonésie, on a rencontré une famille qui faisait un tour du monde pendant 1 an. Et on s'est dit, en fait, c'est possible. Pourquoi nous, on ne serait pas nous aussi? Et donc, il y a 3 ans, on a décidé de tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet.
Oui, Sylvia.
Oui, j'ai une Pardon, Rachel, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que quand on voyage comme ça avec ses enfants et que bon, il y a plein, il y a du mouvement, on fait plein de choses, etc. Puis on est certainement plus soudés, plus ensemble. Est-ce qu'il y a moins de caprices, de jalousies, de petites choses qui entre guillemets pourrissent tout à fait normalement le quotidien des parents?
Ou alors est-ce que c'est pire parce voilà. qu'ils sont tout le temps ensemble?
Je pense que c'est presque pire.
Ah bon? Pourquoi c'est presque
parce
pire?
Parce qu'en fait, on est ensemble 24 heures sur 24. Ouais. On ouais. ne se quitte jamais. Il n'y a pas ces temps de pause où les parents vont au travail, les enfants vont à l'école, chacun dans leur classe. Là, on est toujours tous ensemble. Et donc, la jalousie, justement, par rapport à maman, c'est tout le temps. Dès qu'il y en a un qui vient me faire un câlin, il faut que l'autre vienne tout de suite. Les disputes, c'est un peu toute la journée. Non, c'est pas forcément si simple que ça.
Et
c'est
j'aurais pensé le temps contraire, oui. oui.
Ah, pas moi, hein. Moi,
ah,
j'aurais...
Oui. Ah, oui, je
moi,
vois, mais c'est génial, oui, parce oui. que moi, j'avais une vision totalement idyllique, tout d'un coup. On est dans des beaux paysages, on voyage, tout le monde s'aime, c'est génial, etc. Bon, non, mais ça m'amuse, je trouve que la réponse est honnête, oui. déjà, et amusante.
H24 ensemble, vous imaginez?
On voit des beaux paysages et tout le monde s'aime.
Oui.
les petites disputes, les chamailleries, les petits caprices.
C'est pire.
Et les jalousies, on les vit un petit peu plus fréquemment que à la maison quand on se voit juste un peu le matin, un peu le soir, le week-end.
C'est drôle. Non, c'est...
Voilà. Et comment ça se passe au niveau de l'école pour vos enfants? Alors, petit, il a 2 ans, donc ça va aller, je pense que tout va bien. Mais pour les deux plus grands, qui ont 7 et 10 ans, comment vous faites?
Alors, déjà, le fait qu'il y ait un petit de 2 ans rajoute une complication, c'est-à-dire qu'on ne peut travailler que quand il fait la sieste. Parce que sinon, il veut aussi toucher au crayon, il veut aussi écrire sur les cahiers, enfin, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, en fait, on s'organise l'après-midi pendant le temps de sieste, ce qui nous laisse à peu près 2 heures chaque jour, 2h30, pour le calme, hein, où on peut travailler avec les enfants. Donc, on organise les sorties le matin.
Ouais.
Et l'après-midi, on travaille. Voilà, dans la sieste du petit dernier. Et donc, on a choisi donc une déscolarisation des enfants. On ne passe pas par le CNED. C'est nous qui faisons l'école en utilisant les manuels que nous ont conseillés les institutrices des enfants, les programmes officiels. Voilà.
Et vous arrivez à faire ça parce que c'est pas votre métier de départ d'être institutrice?
Pas du tout. Donc, les manuels sont quand même bien faits. Mmh. Ensuite, on a de la chance d'avoir des enfants qui s'en sortent bien à l'école, hein, qui ont toujours eu des bons résultats. Donc, c'est une facilité supplémentaire. Hein, y a pas de difficulté scolaire.
Ouais.
Et puis on a essayé aussi de choisir l'année 2015-2016 n'a pas été choisie totalement au hasard. On a aussi tenu compte des classes dans lesquelles étaient les enfants. Par exemple, on ne voulait pas faire un CP parce qu'un CP, l'apprentissage de la lecture, ça nous paraissait trop compliqué. Donc on voulait laisser passer le CP à Valentin. Et donc là, Valentin est en CE1. Il y a aussi des nouvelles acquisitions en CE1, mais pas autant qu'au CP. Donc on a essayé déjà d'unifier les difficultés par rapport au choix des classes. Titouan, il est en CM2. Le CM2, c'est de la révision du CM1. Donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles acquisitions, c'est du renforcement.
Oui.
Donc même si on n'est pas du métier, c'est plus facile déjà d'avoir choisi des classes où il n'y a pas trop de nouveautés à apporter.
Et ça leur plaît aux enfants de voyager comme ça? Parce que c'est vrai que les enfants qui sortent de chez eux, etc., avec des langues nouvelles, parfois peuvent se sentir un petit peu perdus.
Alors, déjà, ça dépend des caractères. Je pense qu'il y en a un qui vit peut-être moins bien que l'autre. Alors, bon, je pense que pour Timothée, lui, le fait d'être avec ses parents, que ce soit en France ou voilà, ça, je pense que ça pose pas de problème. C'est surtout Titouan et Valentin. Je pense que Titouan, ça lui plaît beaucoup. Et puis Valentin, je sais pas, faudrait lui reposer la question, peut-être.
Ils apprennent des langues? Ils apprennent à baragouiner quelques mots à chaque fois dans chacune des langues?
Oh, ils apprennent les mots de base, compter. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite.
Ouais.
Bonjour, merci, au revoir, des choses très simples. On n'ira pas jusqu'à faire une phrase. Hein.
Mmh. Et après, donc, dans un an, ils vont revenir en France et puis réintégrer l'école. Qu'est-ce que vous espérez que ça leur aura apporté, cette année de parenthèse, finalement, de Tour du Monde ?
Ben, j'espère que ça les aura ouverts sur le monde, donc ils auront découvert qu'en fait, en France, ben, c'est pas un modèle unique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui les étonne au quotidien, c'est que ben, chez nous, c'est pas comme ça. Ben non, ailleurs, c'est différent. Les cultures sont différentes. Par exemple, ils trouvent que les Chinois sont pas polis. Et on leur dit au quotidien, mais pour eux, ce qu'ils font, c'est pas impoli. Ils les trouvent sans gêne. On a d'apprendre que il y a des visions différentes des choses, des façons.
Par exemple, en Chine, on crache beaucoup. Il y a des crachoirs dans la rue et tout. Ça les choque, ça, ce genre de choses.
Ah ouais, ils trouvent ça. Ça les choque beaucoup. Ils trouvent ça très mal.
Oui, c'est vrai. Bah déjà, nous adultes, ça nous choque un peu. C'est vrai que quand on arrive, qu'on voit des cracheurs partout, des gens qui crachent partout.
C'est un peu. Et puis c'est surtout qu'ils sont très, par exemple, c'est déjà arrivé qu'on fasse l'école à l'hôtel sur une terrasse, et ben ils viennent, ils leur prennent le crayon, ils regardent, limite ils leur tournent les pages, alors ça ils sont très en colère, ils disent mais ils sont sans gêne. Bon, mais eux, pour eux, c'est normal pour les Chinois et les enfants, ils comprennent pas. Bon.
Et vous, comment est-ce que vous voyagez ? Vous vivez à l'hôtel justement tout le temps, ou alors vous louez des appartements, vous avez des camping-cars, comment ça se passe ?
Alors non, on utilise les transports locaux et on dort à l'hôtel. Là, on est en chambre d'hôte parce qu'on est dans un tout petit village où il n'y a pas de gros hôtels, c'est que des chambres d'hôtes, des pensions de famille. Donc c'est pour ça que c'était pas facile de nous contacter.
Parce bah
que,
oui, voilà, c'est
on
vrai.
Est vraiment dans des toutes petites.
Vous êtes où ? Vous êtes où exactement là ? Dans quel coin de la Chine ?
Alors on est dans le Hunan, c'est dans la partie sud de la Chine. Dans un tout petit village qui s'appelle Deang.
Oui.
Voilà, au-dessus du Guangxi, je ne sais pas si vous avez une idée de la géographie de la Chine.
Pas trop.
En fait, notre itinéraire part de Pékin jusqu'à Hong Kong. Donc là, on est dans la dernière ligne droite vers Hong Kong, en fait. Donc on est au nord de Hong Kong, dans la partie sud de la Chine.
D'accord. Bah, en tout cas, Rachel, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de nous parler alors que vous êtes vraiment au fin fond de la Chine. Et puis de nous avoir fait rêver aussi. C'est vrai que je pense qu'en vous écoutant, vous avez peut-être créé des vocations et des gens qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas nous ? Comment vous avez fait d'ailleurs ? Vous avez lâché votre boulot tous les deux ou alors vous êtes mis en congé sous solde ?
On est en disponibilité. On dépend de la fonction publique et donc on a pris des disponibilités.
D'accord, vous avez pris un crédit, j'imagine, pour pouvoir payer vos frais et tout ça. Je suis indiscrète, mais c'est pour... voilà, si moi aussi je veux partir demain faire un an le tour du monde, que je sache comment faire.
Eh ben, faut faire des économies. Ça fait 3 ans depuis qu'on a pris la décision, qu'on économise et que ce qu'on avait déjà de côté, voilà, tout a été rassemblé pour pouvoir réaliser cette année.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas Rachel d'avoir été avec nous, merci d'avoir témoigné et de nous avoir fait rêver, puis bonne continuation. Donc prochaine destination quoi, le Sri Lanka c'est ça ?
Prochaine destination c'est la Birmanie.
La Birmanie, voilà c'est ça. Bah, merci et bon voyage, alors bon tour du monde. Et nous sommes avec une autre famille qui voyage beaucoup, nous sommes avec Anna, bonjour Anna. Et je dis bonjour parce
bonjour.
qu'il est tôt chez vous là, il est quelle heure ?
Il est raisonnablement tôt pour des tours du mondisme comme nous, parce qu'on n'a plus l'habitude d'enclencher le réveil tous les matins. Non, il est 7h du matin, ça va, c'est tout à fait gérable.
Ah bah c'est l'heure de l'Amérique-Corée alors. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est parti. Bon petit déjeuner, Anna.
Et vous êtes où ? D'où est-ce que vous nous appelez ? Allez-y, dites-nous, continuez à nous faire rêver après, Rachel.
Sur la côte pacifique des États-Unis, plus précisément à Morro Bay, qui est un petit lieu touristique le long de cette highway numéro 1, cette autoroute qui longe vraiment le bord de mer, on va dire de San Francisco, en tout cas la partie que nous avons fait, la partie entre San Francisco en direction de Los Angeles.
Ah là là, génial. Et donc vous allez longer toute la côte là jusqu'à Los Angeles ?
Peut-être pas tout à fait. On va un peu au jour le jour. Nous voyageons différemment. Nous sommes en camping-car. Donc, on a cette opportunité dans le cadre des semaines qui nous sont mises à disposition par nos visas de voyager un petit peu comme on le souhaite et où le vent nous pousse, tout simplement. Donc, on a des idées, mais ça dépend un petit peu. On se retrouve à des croisements en disant, bon, est-ce qu'on prend à droite ? Est-ce qu'on prend à gauche ? Donc, c'est un peu une décision... familial ou de celui qui est au volant, de tourner le volant à droite ou à gauche en fait.
C'est génial. Alors, vous aussi, vous avez trois enfants. L'aînée, qui s'appelle Camille, elle a 15 ans. Vous avez Émilie, qui est en 6e, qui a 11 ans. Et Théo, qui a 8 ans et qui est en CE2. Donc, ils sont un tout petit peu plus grands que les enfants de Rachel. Comment ça se passe? Alors, même question. Hein. Oui. Sylvia, vous posez la question.
Ben oui, moi, j'adore poser la question. Est-ce que c'est pire que quand vous étiez, on va dire, à la maison, tous...
En Suisse, puisque
voilà.
Vous êtes Suisse.
Voilà, tous en train de faire chacun son école, chacun son travail. Surtout que là, vous avez une ado. Je ne stigmatise pas les ados, mais parfois, ça peut être compliqué, même de les enlever de leur environnement de copains.
Vous savez de quoi vous parlez. Hein. Vous
absolument.
Avez écrit un livre sur le sujet. Ouais,
oui,
mon ado est un gros naze.
Mais je l'aime. Voilà, donc je voulais savoir si c'était mieux, plus compliqué ou totalement différent d'être tous collés dans le coping-car, tous ensemble.
Alors c'est assez différent justement, ça pesait aussi dans la balance notre prise de décision quand on partait, comme la famille Pelletier, on est parti régulièrement un mois par-ci, un mois par-là, et étonnamment on s'est rendu compte qu'on s'entendait mieux dans nos 10 mètres carrés de camping-car qu'à la maison.
Voilà.
Ce qui était assez étonnant. Mais c'est clair que quand il y a des clashs, les clashs sont animés, comme justement, il n'y a pas de porte de sortie. Enfin, il n'y en a qu'une de porte de sortie.
Voilà, c'est ça. On peut pas claquer la porte et ouais, si c'est comme ça. Voilà, c'est ça.
Donc finalement, quand vous allez rentrer, vous allez vendre votre maison et vous allez vivre dans une cabane.
Dans un camping-car.
De 10 mètres carrés.
Voilà,
parce que
ça.
Pourquoi
dans
habiter dans.
Il faudra qu'on en construise une, mais.
Ben voilà.
Anna, vous pouvez rester encore un petit peu avec nous ?
Bien sûr.
Oui ? Eh bien, écoutez, vous restez avec nous. On est avec Joséphine. Bonjour, Joséphine. Bienvenue sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va parler avec toi. Tu as 12 ans et puis tu vas nous raconter ta vie qui est passionnante aussi. Tu es une enfant du spectacle. Et puis, beaucoup d'autres témoignages. N'hésitez pas, vous aussi, à venir nous rejoindre au direct. 0-826-300-300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
Et nous sommes de retour dans cette deuxième heure. On parle toujours de vos enfants puisqu'on est mercredi avec notre premier enfant qui est Sylvia Kahn.
Oui, tout à fait, madame. C'est exactement.
Alors Sylvia, tu es contente d'être là avec
Je toi? Suis contente. J'ai un petit peu peur quand même.
Et pourquoi tu as une vie un petit peu différente, Sylvia?
Parce que je suis avec Isabelle Bresse.
C'est gentil. C'est donc une vie merveilleuse
oui,
que tu as.
Oui, c'est la vie que comment qu'on dit que tous les enfants y rêvent d'avoir.
Voilà. Alors on est avec Joséphine, qui a 12 ans, qui vous prend pour une débile.
C'est ça, c'est normal. Bonjour Joséphine.
Bonjour Joséphine, bienvenue sur Sud Radio. Alors Joséphine, tu es avec ta maman qui est à côté de nous. Et donc toi, tu es dans une agence de mannequins. Non, pas du tout, de comédiens. Mais tu pourrais être mannequin parce que Joséphine est une jolie blonde avec des longs cheveux, des yeux bleus. Elle est très jolie, elle est ravissante. Et ça fait à peu près 2 ans que tu fais du théâtre, c'est ça?
Oui, c'est exact.
Et puis cet été, tu as vécu une aventure un petit peu extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait cet été?
Cet été, j'ai tourné dans un film qui va passer à la télé.
Qui va passer à la télé, mais quand ça? Sur quelle chaîne? À quelle heure? Dis-nous tout.
Ça va passer sur France 3.
Oui.
La date, on ne sait pas encore, parce que le montage est terminé, mais... pour tout le reste, c'est pas certain. Peut-être en janvier.
Bon,
janvier
tu nous préviens, comme ça on te fait revenir et tu nous parles de ton film, d'accord? Et alors, qu'est-ce que tu joues comme rôle dans ce film? Comment il s'appelle déjà? On a le titre ou pas déjà?
Il s'appelle Pacte Sacré.
Oui.
Je joue le rôle d'une fille de 10 ans, une petite fille de 10 ans. Et l'histoire, ça raconte l'histoire d'une grand-mère qui vit avec ses petits-enfants et leur mère est morte. Et l'immeuble où ils habitent avec leur grand-mère prend feu. Et du coup, ils vont se retrouver dans un immeuble. Mais le problème, c'est que je suis allergique aux moisissures. Et puisque cet hôtel est un peu minable, elle se retrouve bien embêtée. Elle est obligée de nous envoyer vivre avec notre père, qui n'est pas au courant de notre existence, qui s'est remarié et qui a des enfants.
Aïe. Alors, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, c'est pas sa vraie vie, hein. Joséphine est comédienne. Parce qu'elle le raconte tellement bien, on a l'impression que...
On est capté.
Bon, t'es allergique aux moisissures, c'est pas trop dur. Et donc, c'est ton premier film, tu aimerais en faire d'autres?
Ah oui, je rêverais d'en faire d'autres.
Comment tu fais? Ça s'est passé pendant les vacances scolaires ou ça s'est passé pendant la période d'école?
Non, ça s'est passé pendant les vacances scolaires du 7 juillet au 8 août.
Oh là là, ça t'a pourri un mois de vacances?
Non, c'est pas grave, c'était tellement...
C'est mieux que les vacances?
Oui.
D'accord. Est-ce que tu es dans une école spéciale pour les enfants du spectacle ou est-ce que tu es dans une école normale?
Non, je suis dans une école normale.
Ah, alors dans une école normale, sûrement qu'on doit te poser des questions, te demander comment ça se passe. Tu dois être un petit peu la coqueluche de l'école, non?
Oui, enfin, j'ai pas osé le dire à tous les élèves de la classe de peur qu'après on me dise « Oh, la crâneuse et tout ». Je l'ai dit qu'à mes meilleurs amis, mais des fois, sans faire exprès, bah, j'ai un peu lâché le morceau. Et du coup, là, c'est été un avalanche de questions. « Ah bon, mais ça passe quand? C'est trop cool !» Bilouche truc. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. Et je dirai juste la date et puis regardez si vous voulez.
Voilà. Voilà. Sinon, adressez-vous à mon agent, d'accord, si vous avez des questions.
Mais honnêtement, je ne suis pas très inquiète pour toi à l'école parce que je pense que effectivement, il y en aura toujours un ou deux qui diront sa crâneuse. Mais comme tu n'es pas du tout crâneuse et que tu es fort sympathique et que tu es adorable.
Et qu'en plus, elle est canon.
Voilà. Et que je pense que ça n'a pas dû changer beaucoup de choses dans ton comportement. Enfin, en tout cas, tu es adorable. Je pense que ça se passera très bien quand ça passera. Il ne faut pas que tu t'inquiètes.
Oh oui. Non, mais je ne suis pas inquiète. Hein. Je me fiche de toutes les manières de ce que disent les autres.
T'as compris voilà, Magali, si tu m'entends, ben, je m'en fiche parce que même si tu crois que je fais ma crâneuse, je ne la fais pas du tout. Et je ne suis pas du tout inquiète, contrairement à ce que pense Sylvia Kahn.
Voilà, alors donc Joséphine a 12 ans et Sylvia a 8 ans. Est-ce que tu aimerais bien aller dans une école spéciale où tu ferais la moitié du temps de l'école et la moitié du temps du théâtre?
Bah, oui, ça serait envisageable. Si plus tard, eh ben, j'aimerais que mon rêve se réalise, il faudrait bien sûr que je fasse plus d'heures de théâtre. Et donc, bah, mes heures d'école, elles seraient un peu divisées. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aimerais bien aller, mais ça, c'est un peu un rêve, hein, à la Comédie Française. Ça, ça serait...
Oh, ben pourquoi un rêve?
Oui,
pourquoi pas?
Pourquoi
pas? Je vais te dire un truc, à 12 ans... Tout est possible. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut que tu t'en donnes les moyens, que tu travailles, mais à 12 ans, tout est possible.
Et puis c'est bien de se fixer un objectif, même s'il est très élevé. C'est pourquoi tu n'y arriverais pas?
Voilà.
Aucune raison, il faut essayer.
Et puis c'est Saint-Exupéry qui disait, il faut toujours viser la lune, parce que si tu rates, t'atterris dans les étoiles.
Voilà, ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal.
Merci Saint-Exupéry, sinon.
Voilà, donc il faut toujours, surtout à 12 ans, mais même plus tard, hein, mais surtout à 12 ans, il faut viser le maximum, le top du top, le truc, le merveilleux. Et puis de toute façon, t'auras une super vie. C'est quoi le deal avec tes parents pour faire du théâtre et pour jouer dans des films, parce que j'imagine qu'il y a un deal.
Alors, continue à avoir des très bonnes notes, comme j'ai.
Ah bah oui, forcément. T'es en quelle classe?
Je suis en 5e.
En 5e? Et c'est dur, la 5e?
Non, fastoche.
Et tu es venue avec ton petit frère. Comment il s'appelle, ton petit frère?
Il s'appelle Constant.
Constant. Il fait pas de théâtre, Constant?
Non, mais je lui ai déjà proposé. Tu voudrais pas faire des castings et tout? Il me regarde, il me dit « Oh non, mais c'est nul, c'est ridicule, jamais, moi j'aime pas. » Alors contrairement à moi, on est opposés.
Bah pourtant, il a une bonne bouille, ton petit frère. Pour nos auditeurs qui le voient pas, c'est un petit blondinet avec des lunettes. Il est trop mignon, mais ça lui plaît pas. Ça te plaît pas, Constant? Regarde-moi. Oui, non, ça te plaît pas? Non, ça lui plaît pas. Lui, il est plutôt tennis.
Oui, c'est sport.
Sport.
En général.
Eh ben, chacun doit vivre ses rêves et chacun doit aller là où il veut aller. Ben, merci Joséphine, mille fois d'avoir été avec nous. On va te laisser partir parce que ta maman nous a dit que justement, il y avait tennis pour ton frère derrière. Et donc, pour qu'il ne soit pas en retard, on te laisse y aller. Mais merci d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était un plaisir.
Ouais.
Et tu reviens nous voir quand tu veux et notamment pour nous parler de ton film qui va être diffusé sur France 3 en 2016. Cette place t'est réservée. Voilà, Joséphine.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Joséphine.
Et on retourne en Californie avec Anna. Merci, Anna, d'être restée avec nous. Il est maintenant 7h32 dans votre coin. Vous avez votre petit thé, vos biscottes.
Non, pas encore, parce qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous prête une chambre d'hôtel pour justement pouvoir être en ligne avec vous.
Ah.
Donc, toute notre vie reste dans le camping-car. Donc,
d'accord.
Le
donc
thé,
vous
ce
êtes...
sera pour plus tard.
Donc, vous êtes à Morobe, en Californie. Ça fait combien de temps que vous voyagez? Vous avez quitté donc la Suisse avec vos trois enfants de 15, 11 et 8 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez pris la route avec votre camping-car?
Ça fait un peu plus de 4 mois maintenant.
Ah oui,
donc
quand
on est
même.
Au tout début de notre voyage, comme on a prévu de voyager sur plusieurs années, à peu près sur 3 ans. On ne sait pas exactement la durée finale du voyage, mais c'était l'idée de base.
Oh, 3 ans, mais comment vous faites rien que financièrement? C'est quoi votre métier? Puis le métier de votre époux Cédric?
Alors nous étions les deux dans les métiers du secours, on va dire. Moi j'étais ambulancière et mon mari policier.
Et comment vous faites pour partir pendant 3 ans comme ça?
Alors, on n'a pas exactement les mêmes systèmes que vous avez en France. Donc, chez nous, les congés sans solde se limitent à quelques mois. Donc, on a dû quitter nos emplois carrément. Donc, en effet, pour le financement, ça a passé par des années d'économie, c'est certain. Et on a également vendu ce qu'on avait, que ce soit des voitures jusqu'aux jouets des enfants. Et on a loué notre maison également. Ce qui fait partie du budget.
D'accord, donc vous avez l'allocation, vos économies, tout y est passé. Et pourquoi cette motivation à partir pendant 3 ans comme ça, faire le tour du monde ?
Alors nous, on avait toujours aussi, comme les Pelletiers, l'amour du voyage. C'est une maladie, hein, c'est un virus. Une fois qu'on l'attrape, c'est difficile de
revenir en arrière. Ouais. Ouais.
Exactement. On a toujours dit, on voyagera quand les enfants seront plus grands. Enfin, tous les espèces de plans d'avenir, ces plans sur la comète qu'on fait en disant à la retraite, on fera avec une to-do list. Et bref, les aléas de la vie ont fait que, autant que ce soit au niveau professionnel, qu'un petit peu au niveau de la santé, on fait qu'on a vu que la vie se déroule pas forcément toujours comme on le souhaite ou comme on le planifie. Et on a dit, bon, ben, on sait pas de quoi demain sera fait, donc voyageons aujourd'hui et on verra pour le reste plus tard.
Comment donc, ça se passe concrètement ? Donc vous êtes dans votre camping-car, ça fait 4 mois, vous avez visité quel pays là pour l'instant en 4 mois ?
Alors nous avons commencé par le Canada, donc on voyage dans notre propre camping-car qu'on a envoyé depuis la Suisse. Donc il est parti sur un bateau depuis la Belgique jusqu'au Canada. On a commencé par la ville de Halifax, donc sur la côte est des États-Unis, du Canada, enfin du Canada, continent nord-américain, on va dire. Et on a commencé depuis là. Donc on a fait 3 mois le Canada en passant par des petites îles comme différentes provinces, en fait, en zigzagant jusqu'à peu près au milieu du Canada, au milieu de la transcanadienne, pour piquer par la suite vraiment au centre des États-Unis, au Kansas. On avait des amis qui nous ont accueillis pendant une semaine.
Et au Canada, vous avez vu des ours, vous avez vu des trucs incroyables l'été, notamment on voit pas mal d'animaux et tout ça dans les parcs. Vous avez vu ça au Canada ?
Alors, au niveau animaux, pas trop, parce que justement, ils disaient qu'on était en plein dans la période où les animaux avaient leur bébé, donc ils se cachent plutôt en forêt à ces moments-là pour être tranquilles, loin des humains. Malheureusement, peu d'animaux au Canada. Par contre, aux États-Unis, comme on était plus tard dans la saison, alors là, on se régale, que ce soit des baleines, bon, qu'on a vu également au Canada, énormément de baleines, jusqu'au lion de mer, enfin, c'est incroyable, aux pélicans, on a des animaux vraiment qu'on rencontre pas chez nous en Europe, donc c'est très très intéressant, vraiment, même au niveau animalier.
Et vos enfants, comment ils vivent cette expérience-là ?
Alors apparemment, je les regarde ici, ils sont tout proches de moi, apparemment bien. C'était aussi notre aîné qui nous a poussé à un certain moment, quand c'est nous qui baissions un peu les bras ou quoi, avant de partir, en disant peut-être qu'on devrait quand même pas faire ça, ou c'est elle qui était le
Ah ben alors ça m'étonne, disant, excusez-moi de vous couper la parole. Excusez-moi de vous couper la parole, mais ça m'étonne, parce que votre aîné, elle a 15 ans, c'est justement l'âge où non mais attends, ça va pas
que
ou quoi.
Les potes, je vais pas partir.
Et mon copain alors
non, elle vous a pas... Non, c'était plutôt elle qui tenait à certains moments en disant non, maintenant on a pris la décision, on y va, je suis motivée. Alors c'est clair qu'il fallait aussi, pour nous parents, comme vous dites, surfer sur la vague à 15 ans.
Avant qu'il soit trop tard.
Oui, c'est ça. Et 15 ans, vous allez revenir, elle aura 18 ans, donc.
Voilà, qui sait, peut-être qu'on restera plus longtemps, peut-être qu'on rentrera plus vite.
Jamais.
C'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est ce qui est planifié, tout à fait, oui.
D'accord. Et comment ça se passe ? Donc, celui du milieu, il a 11 ans, lui aussi, c'est les copains et tout. Ça va pour l'instant, il gère ? C'est pas trop dur ?
Alors, c'est notre moyenne, oui, tout à fait. Alors, il y a toujours des moments où ce qui est le plus dur, c'est la famille qui manque. C'est les grands-parents, les parrains-marraines. C'est ça qui est un petit peu le plus difficile, on va dire, aussi, surtout pour le départ. On a une arrière-grand-maman qui est restée aussi en Suisse. Alors ça, c'est plus difficile. Donc, heureusement, les moyens technologiques au jour d'aujourd'hui avec Internet nous permettent de souvent parler, que ce soit par FaceTime, WhatsApp, etc., avec les gens qu'on aime. Mais de pouvoir les voir concrètement, c'est, on va dire, le gros point négatif. Alors, on se réjouit qu'on va avoir des visites ces prochains temps, que ce soit des parents à mon mari, donc les grands-parents des enfants qui vont venir nous trouver et voyager avec nous pendant un mois. Ils vont louer, eux, un camping-car pour voyager à travers les parcs nationaux, les parcs dont on entend parler, ce Bryce Canyon, Grand Canyon, etc. Donc on va faire ça ensemble tout prochainement, pendant tout le mois de novembre. On se réjouit énormément de les voir, et également une autre partie de la famille, de mon côté également, qui vont venir nous rejoindre à Noël. Donc ça, c'est des étapes importantes où tout le monde se réjouit maintenant.
Il paraît qu'on ne peut pas rentrer si facilement avec le camping-car, c'est vrai ça ou pas? Ou on m'a dit des bêtises?
Ça dépend des pays. Les réglementations
aux États-Unis, aux États-Unis, il paraît que dans les parcs, on ne peut pas rentrer facilement avec un camping-car. Il faut rester à l'extérieur, je sais pas quoi. C'est vrai ça?
Ça dépend de l'état des routes. Non, c'est très facile, je trouve. Les parcs sont aménagés pour certains, au niveau de l'état des routes, certaines routes ne sont pas faites pour rouler avec des camping-cars. Mais après, ça dépend de la taille du camping-car. Nous, on a un camping-car taille européenne, donc ça veut dire taille mini ici pour les États-Unis, parce qu'ils ont des vrais appartements roulants.
Ah oui, des maisons gigantesques avec des voitures. Voilà, j'ai même vu des camping-cars, ça se baisse à l'arrière, il y a la voiture qui sort. C'est génial.
Voilà, tout à fait. On n'a pas tout à fait ce modèle-là, mais
le modèle
donc, ça nous permet quand même d'aller un peu partout.
Et comment vous faites? Alors, de la même façon que Rachel, vous vous êtes transformée en maîtresse d'école, en prof pour vos enfants?
Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est la partie la plus difficile, d'être parent, enseignant au quotidien. Ça, c'est, je pense que dans notre voyage, c'est ce qu'on trouve le plus compliqué. Voyager, ouais, en soi, c'est facile, trouver un emplacement pour la nuit, se débrouiller pour avoir à manger, trouver une lessiverie, tout ça c'est facile, mais l'école c'est un peu plus dur.
Comment vous organisez, comment ça se passe l'école alors avec vos trois enfants?
Alors pour l'instant, pour cette année, on a choisi un même type de système que Rachel. Donc on utilise des documents justement du CNED ou d'autres documents.
Ah non, elle passe pas par le elle passe pas par le CNED, elle. Hein. Elle s'est procurée.
Voilà, mais elle utilise des livres, etc.
Voilà,
donc nous,
c'est
on
ça.
S'est pas inscrit au CNED non plus. On voulait prendre cette année de transition pour passer justement du système scolaire suisse, qui est un peu différent sur le système français. Donc on utilise des documents type CNED qui sont en ligne ou dans des livres, et on a également des enseignants suisses qui nous suivent et qui nous épaulent, autant avec des exercices
ça.
Que des corrections si nécessaire, si quand nous on arrive à nos limites ou on n'a pas assez de matière à fournir aux enfants, on a de sur qui s'appuyer, des gens compétents.
Ah bah on comprend, parce que Sylvia et moi, après le CE2, là, après Théo, on peut plus suivre. Sixième, seconde, c'est fini.
C'est fini.
Terminé. Ah bah Anna, en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était un plaisir. Et vous aussi, vous nous avez fait rêver.
Avec grand plaisir.
Vous nous avez voyagé. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Est-ce que vous voulez qu'on vous appelle de temps en temps pour savoir où vous êtes, prendre de vos nouvelles? Ça serait sympa.
Alors, volontiers, on est toujours atteignable. On a un blog qui est en ligne, qui est www.dodos.ch pour la Suisse.
Ouais.
Ou bien notre page Facebook qui s'appelle Objectif Monde, où il faut chercher pour notre petite icône de la Swiss Family on the Road. La
D'accord.
Famille suisse sur la route.
Et ben super, on va vous suivre sur le site, sur le blog, sur Facebook. Et puis, on va vous appeler de temps en temps pour prendre de vos nouvelles, savoir où vous êtes et que vous nous fassiez un petit peu rêver. D'accord?
Avec grand plaisir. Peut-être qu'on croisera encore les Pelletiers quelque part dans le monde.
Sûrement, sûrement. Merci mille fois, Anna. Et puis, on embrasse toute votre petite famille, Camille, Émilie, Théo et le papa, Cédric. On se retrouve dans quelques instants pour parler de ces enfants qui ont une vie pas comme les autres. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Et on est de retour, comme tous les mercredis, on parle de vos enfants, une émission qui nous fait rêver. Donc on était avec Rachel qui voyage avec ses trois enfants en Chine aujourd'hui, mais elle va faire le tour du monde pendant une année. On vient de quitter Anna qui est, elle, en Californie. Elle fait également le tour du monde, mais cette fois-ci pendant 3 ans avec ses trois enfants. Moi, ça me fait rêver.
Ouais, parce que nous, on fait juste le tour de la table.
Oui, c'est ça.
C'est pas mal déjà, on peut peut-être changer de place d'ailleurs, Isabelle.
Oui,
ça
c'est
nous
bien.
Changerait.
La prochaine fois, vous prenez ma place, je prends la vôtre.
On tente, on ne promet rien.
Oui, d'accord.
Donc, ne faisons pas des promesses que nous ne pourrions pas tenir.
Voilà. Mais du coup, si je prends votre place, il faut que je parle en anglais. Parce que c'est un autre pays, c'est une autre langue.
Bon, je vais chercher les médicaments pour Madame Bresse et je reviens.
Mais plus sérieusement, Sylvia, vous n'auriez pas eu envie de faire le tour du monde comme ça avec vos enfants?
Alors moi, je le dis, j'aurais été complètement en stress sur les maladies.
Ah, ça m'étonne pas de vous,
voilà,
ça.
Voilà, parce que je suis quand même
hypochondriaque, complètement.
Non, angoissée, pas hypochondriaque, ça n'a rien à voir. Je suis une angoissée, donc j'aurais eu peur qu'il y ait tout d'un coup une maladie, un tétanos, un truc, une connerie.
Mais vous êtes au courant que sur la côte ouest des États-Unis, c'est quand même rare
oui,
le tétanos.
Mais je préfère aller dans chez le pédiatre qui a deux rues. Et moi, je suis un petit peu inquiète.
En plus, les États-Unis, c'est quand même le pays de Dr. House, tout ça.
Oui, mais bon. Moi, j'aime bien être chez moi.
On est également avec Gérald de Benaïm. Bonjour Gérald, bienvenue sur Sud Radio. Gérald s'était endormi en fait pendant l'émission.
Non, je suis là.
C'était l'heure de la sieste.
Surtout aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Hein, la radio? Alors, vous avez une agence qui s'appelle À toi de jouer et vous êtes donc agent d'enfants et notamment vous êtes l'agent de Joséphine qu'on a reçu tout à l'heure qui a dû partir puisque son petit frère joue au tennis. Hein, on ne cache rien à nos auditeurs. Vous avez combien d'enfants dont vous occupez qui sont comédiens?
Oh, il y en a à peu près entre 200 et 250 environ, oui.
Ah oui, mais, ça fait une jolie famille.
Ça fait beaucoup, mais bon, il y a tous les âges. Hein, ça va de 6 à 20 ans, grosso modo. J'en ai quelques-uns qui sont un peu plus âgés. Mais ils ne sont pas toujours dispo. Donc, il faut absolument avoir un panel assez large.
Et comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous avez 250 enfants? Ça me paraît énorme. Ils travaillent tous, tout le temps?
Non. Et non, justement. Non, c'est pour ça. C'est que la plupart sont, enfin, certains sont pas toujours disponibles, hein, le mercredi ou le samedi. Il y a toujours d'autres activités. Hein, il n'y a pas que des castings à faire. Oui. Et pour le peu qu'ils aient une compétition par-ci par-là, il est pas dispo pour faire le casting. Du coup, j'essaie de remplacer par un autre garçon qui reste à peu près dans le même profil, si possible.
Et comment vous les sélectionnez, ces enfants? Alors, parce que de 6 à 20 ans, alors à 15, 20 ans, ça commence à être des petits adultes. Ouais. Mais les enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quoi les critères?
Non, mais il n'y a pas spécialement de critères. C'est surtout un peu la motivation. Il y a encore moins de critères physiques. C'est pas du tout un problème. Non, c'est surtout effectivement la motivation. Et en fait, dans tous les projets qu'il y a, que ce soit à la télévision ou au cinéma, il y a plusieurs profils. Donc tous les profils des enfants sont extrêmement intéressants. Et après, de toute façon, un enfant d'un casting à l'autre, il sera jamais le même. Mmh. Et les enfants ne sont jamais mauvais. Donc pourquoi? Parce que ou ils correspondent ou ils correspondent pas au profil. D'accord. Donc c'est pour ça que tout le monde est bienvenu, j'ai envie de dire quoi. Et après, chacun a sa chance quoi.
Oui, Sylvia.
Oui, bonjour. C'est ce que vous leur dites en fait, j'imagine, pour les rassurer quand ils échouent, par exemple.
Exactement.
À un casting.
Exactement. Mmh. Exactement. De toute façon, ils échouent jamais. Hein. C'est juste qu'ils essayent.
Quand ils sont pas pris, oui.
Ouais, quand ils sont pas pris, voilà, c'est ça. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, en gros, là, j'ai deux familles là qui m'attendent justement dans la salle d'attente, et c'est exactement ce que je vais leur dire. C'est ça. C'est que c'est l'enfant où il correspond ou il correspond pas. Donc l'idée, c'est que il fasse ce qu'il a à faire au moment du casting. Il fait ce qu'on lui demande et après il sort de là et il se dit moi je m'en fous, j'ai donné ce que j'avais à faire et s'ils veulent pas de moi, c'est tant pis pour eux quoi.
Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe justement ces castings? Parce que c'est vrai qu'on a l'image de ces kyriels d'enfants qui font la queue, qui attendent des plombes. On a vu des reportages où on montre ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe? Ou alors on fait quand même un peu plus attention?
C'est plutôt en pub que ça se fait comme ça. Moi, je m'occupe plutôt d'enfants qui vont faire des castings pour des rôles au cinéma ou à la télévision. Ça se passe pas de la même façon. Les castings pubs, en gros, je vais être un peu vulgaire, mais c'est de l'abattage. Ouais. Alors que les castings enfants pour les cinémas et la télévision, il y a plus de temps. Par exemple, je disais encore tout à l'heure que un enfant, les castings enfants, ça, ils vont peut-être mettre 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour trouver le rôle. Un casting pub, ça va très très vite. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont tous entassés dans la même salle, alors que les castings enfants, c'est un rendez-vous toutes les demi-heures, quoi.
Sylvia, votre fils, il a fait des castings. Hein.
Oui, et effectivement, c'était pour le cinéma ou la télé. Donc, il avait des rendez-vous extrêmement précis. On exigeait de lui uniquement d'être à l'heure et de connaître son texte.
Ouais.
Je le savais parce que j'étais allée voir l'agent, évidemment, avec lui, qui était Jackie Ancerre, que vous connaissez peut-être.
Ah oui, je connais très bien, oui.
Voilà, et en fait, en tant que maman, moi, il faisait ce qu'il voulait. Il voulait faire des castings, bon, ok. Mais moi, je lui disais pareil. Je disais, Nathan, si tu ne connais pas ton texte, on n'y va pas. Donc, du coup, je vérifiais quand même. Je disais, Nathan, tu as appris ton texte. Je n'avais pas envie qu'il se fasse renvoyer ou qu'il soit ridicule. Et en fait, ça, c'est toujours... On va dire qu'il apprenait plus son texte que ses devoirs d'école. Voilà, pour résumer.
Et il prenait des cours de théâtre, votre fils, Sylvie, ou pas du tout?
Oui, il a fait Les Enfants de la Comédie à Boulogne. Ouais. Voilà. Et puis il avait quelques petites prédispositions à être assez drôle. Il était, il dansait pas mal, etc. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci mille fois, Gérald, d'avoir été avec nous. On en a appris un petit peu plus sur ce monde des enfants du spectacle. Votre agence, à toi de jouer. Eh bien, écoutez, on accueille, si j'ai bien compris, tous les profils d'enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si votre enfant a envie de faire du spectacle. Et nous accueillons également Louis. Bonjour, Louis. Bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour.
Louis, vous avez 17 ans. Et alors, vous viviez dans un château.
Oui, c'est ça.
Vous avez grandi dans un château, et c'est un château pas banal, parce que c'est un château de la Loire qui est toujours très visité.
Oui, oui, en effet.
Et comment ça se passe quand on vit dans un château avec des visites? C'est bizarre, ça, de vivre dans un château qui est visité?
C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais comme j'y habite depuis que je suis tout petit, moi ça me paraît normal.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un petit creux à 4 heures, tiens, c'est l'heure du goûter, vous descendez à la cuisine et vous croisez les gens qui viennent visiter le château?
Ah non, quand même pas. Non. On n'habitait pas là où les gens visitaient. On avait un appartement privé.
Mais, d'accord.
Mais c'est vrai que par la fenêtre, dans le jardin, il y avait toujours plein de gens, toute la journée, toute l'année.
Ouais.
Et c'est étrange. Si on voulait être seul, il fallait attendre le soir.
Eh oui. Donc c'est étrange ça. Et comment vos copains à l'école et tout ça voyaient ce mode de vie dans un château? Vous deviez faire rêver, non?
Ça les étonne toujours quand ils l'apprennent. Même aujourd'hui, c'est vrai que ça, ils sont toujours assez étonnés. C'est normal, je pense. Mais moi, ça me paraît. Enfin, j'ai toujours vécu là-dedans, donc ça me paraît.
Ça paraît normal.
Oui,
ça paraît normal. En tout cas, merci Louis d'avoir été avec nous. Le château, vous vivez, c'est le château de Villandry, hein, c'est ça?
Si
on veut venir, si on veut venir vous voir, vous serrez la pince et visiter le château. Ainsi, hein, Sylvia, si vous voulez faire un petit tour, c'est un château de la Loire, ça s'appelle le château de Villandry. Merci mille fois, Louis, d'avoir été avec nous. Et merci à tous nos auditeurs qui nous ont appelés, à vos témoignages. Vous nous avez fait rêver pendant une heure. Et pour ça, merci. Parce
merci
que quoi
beaucoup.
De plus beau que le rêve dans la vie? On est là un petit peu pour ça, l'après-midi, n'est-ce pas, Sylvia?
Oui.
Et on vous embrasse fort, on vous dit à demain, très bonne fin de journée avec Sud Radio.